Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Et oui, aujourd'hui nous sommes avec les participants de la bibliothèque de Compiègne, puisque c'est une émission qui est en partenariat avec donc Graphite, évidemment, et les bibliothèques de Compiègne. Ces participants ont participé à plein d'ateliers différents tout au long de l'année, et puis ils nous ont créé des chroniques, chose qu'ils ne savaient pas faire avant de venir ici. Et puis ils vont nous parler de leur sujet, puisque vous les connaissez déjà. Il s'agit de Fatih.
Hello.
Marion.
Bonjour.
Patty.
Bonjour.
Et Benjamin.
Bonjour.
Voilà. Eh bien, pour cette émission matinale, nous allons être, comme d'habitude, très galantes et honneur aux dames avec. On commence ce matin avec un petit clin d'œil. Marion et les handicaps en question.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Bonjour, chères auditrices et auditeurs et chers co-animateurs. Aveugle mon œil. Véridique, j'ai bien entendu cette réflexion devant une personne reconnue handicapée visuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle marchait droit devant elle sans utiliser sa canne. Bizarre tout de même, me direz-vous. Et pourtant, handicapé visuel ne veut pas dire aveugle. En France, ce sont 61 000 personnes qui sont atteintes de cécité totale, soit 0,1% de la population. Alors, le handicap visuel, c'est quoi ? Les personnes peuvent obtenir ce qu'on appelle une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, si leur acuité visuelle est inférieure à 3 dixièmes au meilleur des deux yeux, après correction, ou si son champ visuel est inférieur à 20 degrés. Ah, acuité visuelle, champ visuel, Kézako. Bon, vous m'avez entendu parler de faire régulièrement mon petit cours d'anatomie, mais l'œil, ok. Si je vous parle d'iris, de rétine, de nerfs oculaires, ça passe. Mais pour expliquer vraiment les atteintes visuelles de façon anatomique, il faudrait que je vous décrive la macula, les cônes, les bâtonnets, les rétines temporales, les nasales, le chiasma, les corps genouillés, etc.
Ça a l'air beaucoup trop compliqué pour un matin. Hein.
Voilà, donc...
Épargne-nous un tout petit peu.
Ok, pas de cours d'anatomie. Pour faire simple, il y a 3 types de difficultés visuelles. La vision floue, la vision tubulaire et la vision périphérique. La vision floue, tout d'abord, elle est en lien avec l'acuité visuelle, qui est la capacité à percevoir le monde de manière nette et précise. Pour une personne qui a donc une perte d'acuité visuelle, tout est aperçu, rien n'est vraiment distingué. Cette problématique va être accompagnée d'éblouissements, de problèmes de vision de nuit et de perception des couleurs. C'est là où normalement je parle de cône et de bâtonnet. La personne va être en grande difficulté pour se déplacer en sécurité puisqu'elle va avoir du mal à apprécier les reliefs, les distances d'un obstacle ou évaluer la vitesse d'un objet en déplacement. Ensuite, en lien avec le champ visuel, cette fois, il y a 2 cas de figure. D'une part, le champ rétréci ou vision tubulaire. Seule la vision centrale subsiste. La personne peut donc voir très nettement les objets, mais dans une toute petite zone. Elle peut lire et reconnaître les visages. Par contre, elle se déplace très difficilement car elle n'a pas de vision d'ensemble. Elle ne voit que ce qui se trouve dans son champ de vision. Les déplacements sont donc stressants puisque les obstacles ne sont pas perçus ou alors au dernier moment.
Grosso modo, elle voit que ce qui est en face d'elle ?
Sur un 10 degrés de champ de vision. Quoi. Elle a vraiment un tout petit... Elle a quand on regarde à travers une...
Une longue vue ?
Une longue vue, par exemple. Ouais. Et en dernier lieu, nous avons la perte de vision centrale, où seule la vision périphérique subsiste cette fois. Là, la lecture et la vision précise sont difficiles, voire impossibles. La vision des couleurs est perturbée. En revanche, l'orientation et les déplacements restent possibles, grâce à la vision périphérique, notamment dans des espaces ou sur des trajets familiers. Juste comme exemple, quelques maladies qui entraînent des atteintes visuelles. On parle beaucoup de la cataracte et la DMLA. On dit que c'est plutôt des maladies liées à l'âge, dont on entend parler assez régulièrement. Il y a également la rétinopathie diabétique, donc qui concerne les personnes atteintes de diabète. Il faut le savoir, qu'il y a des conséquences aussi sur les yeux. Et la rétinite pigmentaire, qui est une maladie génétique pouvant entraîner une perte de champ visuel et de cécité. J'en parlerai peut-être un jour un peu plus de façon un peu plus approfondie. Mais aujourd'hui, voilà. Eh bien, il y en a une que tout le monde connaît, d'atteinte visuelle.
La myopie, je suis myope moi-même.
Voilà, je pense qu'ici, on est tous les chroniqueurs et Aurore, on a
moi
tous...
Je suis astigmate.
Voilà, mais tous ces problèmes-là...
Non, moi, c'est plutôt de la presbytie.
Ben voilà, on a tout.
Voilà. Donc ces atteintes peuvent arriver à des niveaux conséquents. Là, je vais parler particulièrement de la myopie, parce qu'aujourd'hui, on parle dans le monde d'une épidémie de myopie. Savez-vous pourquoi ?
Ah, c'est pas contagieux, en tout cas.
À cause des téléviseurs noirs et blancs des années 70.
Eh ben, on n'en est même plus là. Encore un petit effort.
Pas d'idée.
Les téléphones portables.
Les téléphones portables, voilà. Tout ce qui est écran, lumière artificielle, écran et les écrans de plus en plus rapprochés.
Et oui, en plus, Benjamin nous a parlé de l'addiction aux jeux vidéo et justement du fait que les écrans étaient nocifs la dernière fois. Et voilà,
y a un lien. Et du manque d'activité extérieure. Il est important, dans tous les cas de figure, de faire tester régulièrement sa vision. Comme tout, comme l'oreille, voilà. Et je dirais plus particulièrement le plus tôt possible en ce qui concerne la myopie, sachant que nos enfants sont d'une génération qui utilise bien plus souvent que nous les écrans de près, comme les consoles et les téléphones.
Eh bien, merci beaucoup Marion pour cette chronique sur la vision. J'espère que vous êtes bien réveillée ce matin, que vous avez déjà ouvert vos yeux. Vous ne voyez pas flou. Ouais,
généralement, le matin, on n'a pas trop les yeux en face des trous quand on sort du lit.
C'est ça. Voilà, donc, si vous avez des symptômes que Marion a décrits, c'est peut-être juste le réveil qui est en train de se faire. Pas de panique. En tout cas, moi, j'en connais un qui n'a pas les yeux dans ses poches et pour qui l'observation est un art. On enchaîne avec Patty, la littérature, l'argent et nous.
Continuons, si vous voulez bien, chers amis auditeurs, de faire connaissance avec le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin et avec sa relation à l'argent tout à fait spéciale. Dans Édith au coup de cygne, Lupin se définit ainsi. Qu'est-ce que je suis donc ? Si j'ai sur la propriété d'autrui des idées un peu spéciales, je vous jure que ça change du tout au tout quand il s'agit de ma propriété à moi. Fichtre, il ne faudrait pas s'aviser de toucher à ce qui m'appartient. Je deviens féroce alors. Oh, oh ma bourse, mon portefeuille, ma montre. À bas les pattes. J'ai l'âme d'un conservateur, cher ami. Les instincts d'un petit rentier et le respect de toutes les traditions et de toutes les autorités. Et c'est pourquoi Ganimard m'inspire beaucoup d'estime et de gratitude. Comment, socialement, Arsène Lupin est-il perçu dans les journaux, les seuls médias de l'époque ? La perception sociale d'Arsène Lupin est complexe et ambivalente. Après le suicide d'un riche colonel, auquel il a volé des tapisseries historiques de valeur, voici ce que l'on dit de lui dans la presse. « Qu'il prenne garde », écrivit un chroniqueur ironiste, lequel résumait bien l'opinion générale. « Il ne faudrait pas beaucoup d'histoires de ce genre pour lui faire perdre toute la sympathie que nous ne lui avons pas marchandée jusqu'alors. » Lupin n'est acceptable que si ces coquineries sont commises au préjudice de banquiers véreux, de barons allemands, de rastaquouères équivoques, de sociétés financières et anonymes. Et surtout qu'il ne tue pas des mains de cambrioleurs, soit. Mais des mains d'assassin, non. Or, s'il n'a pas tué, il est du moins responsable de cette mort. Il y a du sang sur lui. Les armes de son blason sont rouges. La colère, la révolte publique, s'aggravait de toute la pitié qu'inspirait la pâle figure d'Édith, la veuve délicate du colonel. Et pourtant, on ne pouvait se retenir d'admirer l'extraordinaire virtuosité avec laquelle le vol avait été accompli. À la différence de Robin des Bois, qui vole les riches pour donner aux pauvres, le personnage d'Arsène Lupin est plus complexe, plus égocentré et profite de l'argent qu'il vole à d'autres. Dans le fétu de paille, Arsène Lupin lit les informations dans le journal, repère sa proie, manigance un plan et organise savamment ses vols. Mais il récompense aussi le voleur à qui il a volé l'argent. 3 louis d'or chaque trimestre. Il est généreux. Enfin, dans le mariage d'Arsène Lupin, bien que sa réputation soit celle d'un voleur, intimidateur, dit-on même, il publie dans les grands journaux, des manigances bien sûr, de fausses informations. Il aime être en vue, comme les grands du beau monde, sous forme de provocation. Ainsi, il publie une fausse annonce de son mariage avec une riche héritière déjà âgée de 33 ans, qui prenait le chemin de rester vieille fille. Le plan d'Arsène Lupin est assez machiavélique. Il se fait passer pour une autre personne pour réaliser ses méfaits. Cependant, Arsène Lupin peut être aussi sensible, ému, touché par la pureté des sentiments et grand seigneur. Ainsi, il restitue les 500 000 francs qu'il a dérobés et en fait don aux pauvres d'un couvent de religieuses dominicaines où s'est réfugiée la femme qu'il avait épousée par manipulation pour soutirer l'argent de sa dot et de son héritage. Alors on peut se poser la question, qui vole les riches aujourd'hui ?
Pas moi.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Très bien renseigné par des conseillers spécialisés sur l'optimisation fiscale, il semble bien difficile, voire impossible, de leur soutirer de l'argent. Pourtant, cela s'est produit dans un passé récent. Vous avez sans doute entendu parler de l'Américain Bernard Madoff, qui a été condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison pour une escroquerie de 65 milliards de dollars. Autre exemple, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, trader aux dents longues, dont la vie est mise en scène dans un film de Scorsese interprété par le beau DiCaprio, sorti en 2013. Et enfin, le français Victor Loustiche, quant à lui, a réussi l'exploit de vendre la Tour Eiffel pendant les années folles.
Waouh,
trop fort. Entendu.
Toujours pas celui-là.
Bon, quelques aventurières du côté de la gente féminine réussissent encore à se faire épouser avant de divorcer avec une rente confortable pour la plus grande joie de la presse à scandale. Dans le monde, les arnaques sont pléthore. Elles se basent sur la crédulité des victimes et l'élaboration d'entourloupes réfléchies. On vole davantage les pauvres qui sont souvent moins bien informés et moins attentifs au grand jeu de l'argent. Certains montages financiers visent à contourner la loi. Certains piochent dans le patrimoine collectif avec les abus de biens sociaux. D'autres font en sorte d'influencer le vote de nouvelles lois en faveur de certains groupes de pression qui veulent davantage d'argent et de puissance. Malheureusement, le vol, quand il se répète, ne se limite pas à une série d'actes malveillants, mais devient un mode de vie, un mode de pensée et d'agir, justifié par des arguments fallacieux et faux, qui finissent par ronger un tissu social sain. Alors, le vol commis avec intelligence, élégance, dans le luxe, s'apparenterait-il à une œuvre d'art ? C'est peut-être pour cette hypothétique ressemblance que les aventures d'Arsène Lupin continuent de passionner les lecteurs en traversant le temps.
Merci Patty. Eh bien, la série des Lupins est finie. La prochaine fois, on découvrira une autre de tes lectures. Et d'ailleurs, peut-être que le prochain personnage principal sera un peu moins addict au fric. Et en parlant d'addiction, j'en connais un qui va nous mettre en forme. Benjamin, nous avons les yeux rivés sur toi. Enfin, nous, après les auditeurs, ils ont les oreilles rivées sur toi, j'espère.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cette chronique, je vais vous présenter l'addiction au sport sous forme de quiz.
Allez, un petit quiz pour se réveiller.
Allons-y.
Allons-y.
Première question, combien de personnes font de sport en France ?
Oula, pas tant que ça. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas énormément qui font vraiment du sport.
Un tiers de la population ?
Selon l'INSEE, 2 personnes sur 3 font du sport au moins une fois par semaine au cours de l'année. Parmi eux, les hommes et les jeunes ont plus souvent une activité physique régulière.
Ouais, enfin, les hommes, ils n'ont pas la charge mentale. Hein. Je tiens à le dire.
Le ménage, les revendications féministes.
Et il y a 71% d'hommes et 60% de femmes pratiquant de ce sport. Et il y a 83% des 15 à 24 ans et 50% de 65 ans ou plus.
Ouais, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand même 2/3 de la population qui fait du sport, plus majoritairement des hommes et des jeunes. 83% de jeunes, c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais. Moins de 25 ans.
Il y a l'école, hein. Attends.
Ah,
ça aide.
Ah, c'est ça. C'est ça.
Moi, je vais retourner à l'école.
Deuxième question, comment s'appelle l'addiction au sport?
Bonne question.
La sportomania.
Sport addict.
Culture addict.
C'est plutôt connu en Europe, particulièrement en France, la bigorexie, aussi appelée la dépendance au sport. Le sportoulisme est aussi associé à inverser. Sportoulisme inversé.
Wow. D'accord. Ah, c'est l'anorexie inversée qui est souvent liée au sportoulisme. Mais ça, sportoulisme, c'est vraiment un mot bizarre déjà.
C'est très français du coup.
Et la bigorexie du coup pour la dépendance au sport.
Oui.
Bigorexie. Je ne suis pas bigoraxite. Je ne suis pas bigoraxie.
Ça a été reconnu en 2011 par l'Organisation mondiale de la santé comme faisant partie des dépendances comportementales.
Alors, okay. Une dépendance au sport, c'est génial, moi, je trouve. Non ?
Pas vraiment.
Tu vas nous dire pourquoi, alors ?
Troisième question, comment reconnaître la bigorexie ?
On est tout le temps en short.
C'est tous les jours, c'est quoi ? C'est sur le nombre d'heures par semaine de...
Eh bien, une augmentation du temps consacré au sport assortie d'un comportement absolu obsessionnel et a des signes de la bigorexie et que les personnes en souffrant développent une obsession pour son physique, son poids, ses performances.
Ouais, donc il y a le temps et puis il y a le temps qu'on passe à faire du sport et le temps qu'on se passe à se regarder dans le miroir.
Ouais. Quatrième question, en quoi la bigorexie est une maladie ?
Bah oui, c'est une bonne question justement.
Il s'agit de l'addiction au sport. Il ne s'agit pas d'une simple passion, mais bien d'une dépendance à la pratique excessive d'un sport pouvant provoquer de nombreux problèmes de santé. Environ 15% des sportifs pratiquent entre une et plusieurs heures de sport par jour pouvant être concernés par la bigorexie.
Ah oui, c'est quand même plusieurs heures par jour
oui.
dont on parle. Ouais.
On n'en est pas là. Hein.
Non.
Cinquième question, quelles sont les conséquences de l'addiction au sport ?
Ouais. Tu as parlé de conséquences physiques ?
Ouais. Les douleurs, les problèmes de dos, d'articulation.
Un excès de transpiration.
Pardon.
L'addiction amène les sportifs à repousser toujours plus loin les limites physiques et psychologiques et peut générer des blessures graves, voire un arrêt obligatoire de la pratique. Certains sportifs poursuivent la pratique sportive même en cas de blessures graves ou ont recours au dopage pour pouvoir pratiquer.
Oui. Ouais, c'est l'obsession qui prend le dessus.
C'est ça. Ouais.
Sixième question, quels sont les dangers de la bigorexie ?
Se faire mal, du coup.
Ben après, il y a des dangers de vie, enfin, j'imagine.
Se blesser.
Enfin, au niveau cardiaque et tout ça, ça peut aller loin.
Enfin, selon ASEF, l'association Santé Environnement France, la bigorexie peut présenter des risques pour la santé au-delà des problèmes personnels, professionnels, familiaux et psychologiques comme l'épuisement général les déchirures musculaires, les atteintes tendineuses, les fractures osseuses et l'infarctus.
Oui, c'est ça. Ouf. C'est pour ça que je me tiens loin du
pas
sport.
Trop ouais, sport quoi.
Ça donne pas envie. Du coup.
Comment lutter, septième et dernière question, comment lutter contre cette addiction ?
En se faisant aider. Hein.
Soigner, je pense.
Mmh. Ouais.
La clé pour sortir de l'addiction au sport, ce n'est pas l'abstinence. Il faut essayer de prendre le dessus sur le comportement, c'est-à-dire consommer de manière modérée et maîtrisée et garder le contrôle sur la pratique. Dans ce cas, il faut envisager des techniques de thérapie comportementale.
Ah oui. Ah,
oui, c'est trouver un équilibre, en fait. Oui. Il faut faire. Bien, merci beaucoup, Benjamin. J'espère que ça a mis nos auditeurs en forme. Après, ils aient enfin ouvert les yeux grâce à Marion. Et pour, si jamais il y en a encore le doute, est-ce qu'ils sont en forme, et ben on va leur donner une petite musique qui va, à mon avis, les booster. Qui ne veut pas partir. Et ben, du coup, tant
allez,
pis.
Aurore, allez.
Non, ben c'était le coach de soprano, mais je crois qu'on va devoir s'en passer parce que la musique ne veut pas se lancer. Eh bien, c'est pas grave, on verra si on peut...
Marcalé.
Ouais. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer, hein, puisque on est nous, on est là, on voilà. Est bien réveillés, on est en forme.
On peut chanter éventuellement.
Je pense pas que ça va aider nos auditeurs à se réveiller. Ils vont peut-être remettre la couette sur leur tête si on se met à chanter. Eh bien, écoutez, en attendant, moi, eh ben, je vais vous parler d'une... petite erreur que les débutants font quand ils essaient d'écrire, ça concerne les descriptions.
All I'm asking you is don't write me off just yet.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à aimer lire des descriptions, des pages et des pages pour bien se représenter l'ambiance d'un roman, ou plutôt à sauter ces pages parce que vous trouvez ça saoulant ?
Alors, Victor Hugo, quand il commence à parler des quartiers, des fromages, il y a des moments où c'est passionnant, mais il y a des moments où on se dit, toutes les rues, les machins, là, mais chaque façade de maison, moi je sautais au bout d'un moment.
J'avoue. Oui, moi aussi, mot passant, un moment. Mais ceci dit, j'aime bien quand même imaginer à travers les mots. Hein.
Ça dépend de l'action, ça dépend du niveau de tension dans l'action, en fait. Voilà, oui. S'il n'y a pas une tension très très forte dans l'action, on peut se promener, on prend le temps d'imaginer le cadre, les décors, tout ça. Mais si la tension dans l'action est très forte, on a tendance à sauter les descriptions.
Il en faut assez pour nous emmener, mais pas trop pour ne pas gâcher notre imagination.
Trouver l'équilibre, là voilà. Encore, c'est une question d'équilibre.
Tout à fait.
Eh bien, bien sûr, c'est important et c'est même essentiel de décrire des choses dans une histoire. C'est ce qui nous permet à nous, lecteurs, de construire notre film mental, comme tu le disais, Fatih, et de se représenter un décor, de se représenter un visage. Prenons l'exemple d'un personnage. Alors, aujourd'hui, on va plutôt s'axer sur les personnages. Comment bien décrire un personnage ? Alors, ne vous leurrez pas, jeunes auteurs, les lecteurs ne verront jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, exactement ce que vous voyez dans votre tête à vous. Et si vous le croyez, eh bien, malheureusement, c'est une erreur de débutant. En revanche, vous pouvez vous en approcher. Comment ? Alors, il faut que la description suive une logique. En général, elle suit la logique d'un regard qu'on porte sur quelqu'un. Quand une personne arrive dans une pièce, d'une manière générale, que faisons-nous ? Eh bien, notre regard se tourne vers la personne. Souvent, elle se tourne d'abord vers son visage. Et puis, éventuellement, on descend le regard sur son torse jusqu'à ses chaussures. Ou pas, peut-être qu'on va s'arrêter avant, parce que le reste n'a pas d'importance, ou parce qu'un détail aura attiré notre attention. Ou tout simplement parce que cette personne, on la connaît, que son visage nous est familier, et que ça suffit, on n'a pas besoin de la scruter. Eh bien, il faut avoir cette même démarche lorsqu'on souhaite décrire un de nos personnages. Il faut garder un regard logique, de haut en bas, ou de bas en haut si le point de vue s'y prête, ou de loin, puis de près. Il faut penser comme au cinéma, en faisant un zoom sur un détail qui pourrait avoir son importance pour l'histoire, pour notre narrateur, ou pour exprimer quelque chose de précis sur cette personne que l'on est en train de décrire. Un trou dans un pull ou une tache peut prendre par exemple son importance. Il faut sélectionner des points d'attention, des traits de visage qui seraient le reflet de son caractère, en tout cas selon l'analyse du narrateur, un ou deux détails marquants pour que le lecteur puisse visualiser. Par exemple, des yeux clairs, des cheveux roux, c'est des choses tout de suite qu'on peut s'imaginer. Et en tant qu'auteur débutant, il faut aussi, débutant ou pas débutant d'ailleurs, il faut se poser ces questions. Qui décrit le personnage ? Qu'est-ce qui interpelle le narrateur et pourquoi en voyant cette personne ? Et en quoi cette description, elle est utile pour le lecteur ou pour le développement de l'histoire ? Parce que la description pour la description, effectivement, ça peut nous emmener dans une ambiance, mais des fois, c'est ça peut paraître complètement inutile. Le lectorat doit pouvoir se représenter le personnage en quelques phrases. Pas la peine d'en faire des pages et des pages. On risque alors de noyer ou d'alourdir le style de notre ouvrage. On risquerait aussi de rentrer dans la caricature ou la catégorisation d'un personnage. Le reste peut venir plus tard, puisqu'il faut que le lecteur voit notre personnage aussi évoluer dans l'histoire pour se faire sa propre idée, par ses actes et par ses dialogues. La description, c'est pas seulement physique, ça va être aussi tout ce qu'il va faire, comment il va le faire, comment il va le dire. Votre description doit d'ailleurs s'intégrer à l'histoire, c'est pour ça qu'elle doit rester courte. Le lecteur ne doit pas se dire « Tiens, il est en train de décrire ce personnage ». En fait, il faut que ce soit beaucoup plus subtil que ça. La description doit venir en appui du récit, elle vient l'étayer. Elle ne doit pas tomber comme un cheveu sur la soupe, mais vraiment se fondre dans l'histoire et faire corps avec le reste. Et c'est un exercice difficile. Dans une prochaine chronique, nous pourrons parler peut-être des descriptions de lieux, qui est un exercice encore différent et pourtant qui est bien utile.
Oh oui, merci Aurore.
Eh bien, puisqu'on vient de parler de description de personnages, j'en connais une qui va se faire une joie de refaire le portrait de quelques personnes qui peuplent nos rues.
Allons-y. Oups. Donc, hello tout le monde. Oh, petite musique.
Ah oui. La musique, elle part quand elle veut aujourd'hui.
Ah, c'est pas grave. Petite chronique, allez, du samedi matin, histoire de bien commencer le week-end, pour vous parler encore de certains odonymes de notre belle ville impériale. Rappelez-vous, 6% d'odonymes féminins à Compiègne. Pour reprendre la conclusion d'une de mes chroniques précédentes, l'urbanisation, bien que galopante ces dernières années dans notre belle cité, va bien finir par s'arrêter. Et vous me voyez sans doute venir avec mes petits sabots. Tôt ou tard, ne faudra-t-il pas rebaptiser certaines rues ? Je ne connais pas la procédure officielle pour cela, mais après avoir pris attache auprès de Monsieur Jacques Bernet, président d'honneur de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne, j'ai compris que pour qu'une personne puisse se voir attribuer un nom de rue à Compiègne, il faut qu'elle ait eu, de préférence, un lien avec notre ville. Et je dis bien de préférence. Donc, j'aurais bien proposé, allons-y, Mademoiselle Madeleine, ou Madame Madeleine Fourcade. Mais quid de son lien avec Compiègne ? Eh bien, juste un lien avec André Astou, qui a, lui, un nom de rue. Vous connaissez André Astou ?
Non, c'est qui celui-là ?
C'est un officier de marine qui, en 1947, coopéra avec une femme, Marie-Madeleine Fourcade, pour lancer la campagne du timbre afin d'asseoir la popularité du général de Gaulle. Cela va sans dire. Et en 1958, ils se mobilisent ensemble pour le retour de ce dernier au pouvoir. Tiens, tiens, derrière chaque grand homme, il y aurait donc une femme, comme dit l'adage populaire.
Chercher la femme.
En tout cas, dommage qu'aucune rue compiégnoise ne porte le nom de cette dame, Madame Fourcade, car elle fut pourtant pendant la Seconde Guerre mondiale responsable de l'un des plus importants réseaux de résistance, la seule à avoir dirigé un grand réseau en France et l'une des rares en Europe avec la Belge André Dejon. Bien entendu, je laisse aux historiens le soin de se prononcer sur son action. Et ceci fait, il n'y aura plus qu'à lui trouver une rue, mais pas forcément à Compiègne, car l'action de cette dame n'aurait pas de lien direct avec notre ville. Merci, monsieur Bernet, pour votre précision. Et lors de mes errances pédestres, somme toute nombreuses, j'ai repéré une rue qui m'a fait kiffer. C'est la rue du Dahomey. Elle fait référence à un ancien royaume africain aujourd'hui disparu, mais qui se situerait grossièrement sur la zone de l'actuel Bénin. Je propose de la rebaptiser la rue des Amazones du Dahomey. Pourquoi ? Mais parce que c'était la troupe d'élite de ce royaume, contre qui les soldats français pendant la colonisation ont eu maille à partie. Elles, au moins, n'ont pas eu besoin de se déguiser en homme, comme notre héroïque Jeanne d'Arc. Mais non, pas possible, car ce serait l'illustration parfaite d'une fake news. Encore un grand merci, monsieur Bernet, qui m'a appris que le nom du Dahomey fut attribué à une rue de Compiègne après la Première ou la Seconde Guerre mondiale,
en raison de l'aide économique apportée par cette ancienne colonie française à la ville de Compiègne. Rien à voir donc avec les Amazones. Dommage quand même, je suis déçue, pas vous ?
Ah ouais. Ah bah si.
Après les nymphes, tu nous fais les Amazones.
C'est ça. Bien, monsieur Bernet m'a appris également que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu à Compiègne des infirmières ayant servi dans les hôpitaux, telles que Monique Ancel, née en 1919, qui fut infirmière à l'hôpital dit de Bruxelles, que sa fille Monique Dufaux-Mercier a évoqué dans deux articles publiés par les Annales historiques compiégnoises. Il y a eu aussi Jeanne Lecomte, la mère de Bertrand Brassens, dont le nom a été récemment rappelé par une plaque apposée sur l'école Hersant pour le souvenir de l'ambulance militaire où elle servit pendant la Seconde Guerre. Et il y a certainement eu beaucoup d'autres femmes, en fait, au courage exemplaire, pendant ces temps bien sombres de notre histoire. Je lance donc un appel officiel à candidature. Contactez-nous si vous avez des propositions, ou plus simple, passez par...
Allô, monsieur le maire.
Allez, on y va. Allons-y. Allô, monsieur le maire. Oui, bonjour. J'ai entendu parler, au détour d'une discussion, de madame Antoinette Marot, née des Marais, décédée en janvier 2018. Elle a été, avec son mari Gilbert Marot et à sa suite, présidente de la Sauvegarde de Compiègne, association créée dans les années 70 au départ pour empêcher la démolition de l'ancienne chapelle anglicane dans les avenues de Compiègne et qui par la suite s'est intéressée à la défense du patrimoine local. Pour le coup, une Compiégnoise parmi les Compiégnoises à une époque plus contemporaine. Pourquoi ne pas honorer l'action de cette dame Antoinette Desmarais Marot, monsieur le maire ? Je vous laisse le soin, chers auditeurs et chères auditrices, d'appuyer ma proposition, en commençant par vous, mes chères chroniqueuses et chroniqueurs.
On y va.
Ok.
Merci, Fanny.
Mais je n'ai pas fini. Quand monsieur Bernet s'est intéressé au nom des établissements scolaires de Compiègne, il en a trouvé que 4 sur 25 portant des patronymes féminins. Jeanne d'Arc et Claude de Rothschild pour l'élémentaire public. Mireille Grenet et Madame de Sévigné pour le secondaire, public et privé. Il manque au moins, disons, 25 sur 2 égale 12,5, donc 13. 13 pour compenser l'inégalité, moins 4 qui exige déjà. Bref, il en faut 9. Excusez-moi, je ne suis pas très matheuse. Alors, dans de prochaines chroniques, je vous l'annonce, je vous ferai le portrait de femmes, histoire de s'inspirer pour arriver à terme, enfin, à 50% de noms de rue au patronyme féminin. Utopique, avez-vous dit ? Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais le mouvement est amorcé. J'ai pas osé dire le mouvement est en marche. Bon.
Eh bien, merci beaucoup, Fatih, pour nous booster dans cette voie qu'est le, les odonymes féminins.
J'en prie.
Eh bien, cette émission touche à sa fin. On va bien sûr terminer en musique avec un morceau choisi par l'équipe, justement pour appuyer tes propos, Fatih. Yes. Alors, on n'aura pas eu le droit à soprano, mais on va avoir le droit à Femme libérée.
Yes, ma préférée.
Tout le monde la connaît, mais on aime bien chanter dessus. Voilà, et bien merci à vous, mes chroniqueuses Patty, Fatih, Marion, et à toi, mon chroniqueur Benjamin, qui est bien entouré ce matin. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, et à bientôt pour une prochaine émission de la matinale
Infernale.
Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle
l'arrête quand même. Il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas.